C'est toujours une joie de venir un dimanche matin à la rue Sonnera. Mais cette fois-ci, vous comprendrez qu'on était aussi impatients de découvrir le nouveau décor. Je trouve que vous avez fait fort. Hein. Et j'étais en train de réfléchir, là, et vous savez, bon, vous ne pouvez pas deviner à quoi ça me fait penser, mais je vais vous le dire. Ma vie est un chantier en cours. Mais le Seigneur n'en a pas encore fini avec moi. C'est vrai, hein. C'est pas tout à fait le sujet que j'avais pris, mais je pense qu'il y a un lien. Et j'aimerais lire donc avec vous, dans la parole de Dieu, une parabole, Matthieu 25. Un aspect de ce chantier que le Seigneur est en train de conduire dans ma vie, dans nos vies. C'est ce qu'il veut faire au niveau de notre service. Et donc je vais prendre dans Matthieu 25 au verset 14. Je lis dans la Bible du Semeur. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 et à un troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même, et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots. J'en ai gagné 5 autres. Les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit, « Maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur. Et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. » Mais son maître lui répondit, « Vaut rien, feignant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé, que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. » Qu'on lui retire donc le lingot, et qu'on le donne à celui qui en a 10. Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce vaut rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. » Ça s'arrêtera là pour aujourd'hui. Voici une de ces histoires que Jésus raconte, et il y en a beaucoup, hein, vous connaissez ces histoires dans les évangiles. Des histoires qu'il a racontées pour ses disciples, mais non pas pour les divertir, pour les instruire et pour nous instruire aussi, bien sûr, à notre tour. Et le thème ici, c'est comment servir un maître qu'on ne voit pas. On pourrait dire qui a disparu, hein, et qui nous a pourtant confié une responsabilité et qui reviendra pour évaluer ce que nous aurons fait de ce qu'il nous a donné. Et cette parabole pourrait illustrer cette exhortation générale que Paul fait aux Romains, c'est Romains 12, 11, où il dit « Ayez de l'empressement et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. On pourrait dire que deux des trois serviteurs dans l'histoire sont sur cette ligne-là. Hein, servons le Seigneur. Même si on ne le voit pas, on le sait. Il y a une notion de service qui est incontournable pour ceux qui veulent vivre avec Dieu, qui veulent aimer Dieu, tout simplement, dans la vie de tous les jours. Les paraboles nous touchent parce qu'elles présentent des situations que nous arrivons à imaginer, nous arrivons à nous plonger dans l'histoire, et puis il y a des personnages auxquels aussi nous pouvons nous identifier. Il faut simplement quand même faire attention à la distance culturelle qui nous sépare du premier siècle. Hein. Donc, il y a parfois des petites choses qu'il faut prendre en compte pour ne pas tirer des conclusions fausses des paraboles. Et ici, on remarquera qu'on a quand même une image, aujourd'hui on dirait commerciale. C'est une situation économique qui est décrite et il faut chercher à la comprendre. Dans notre contexte économique actuel, nous pourrions facilement nous égarer par rapport au sens de cette histoire dans la bouche de Jésus. Par exemple, nous pourrions dire, finalement, le Seigneur, il se soucie surtout de rentabilité. Il faut que je fournisse quelque chose en retour de ce qu'il m'a donné. C'est une bonne question. Quel rendement le Seigneur attend-il de nous? Je vais essayer de donner quelques réponses. Et puis ensuite, on parlera aussi de motivation. Qu'est-ce qui devrait motiver le serviteur que je suis? Et puis, on finira par essayer de voir comment ça peut éclairer notre façon de servir Dieu aujourd'hui. À quoi ressemble la rentabilité selon Dieu? Nous ne connaissons que trop bien le souci de rentabilité qui anime notre société actuelle. Et tout au long de la semaine, on a eu des illustrations aux informations de cette histoire-là. Alors, on pourrait prendre beaucoup d'illustrations. Si une émission ne fait pas d'audience, on la supprime. Si un produit ne se vend pas, on l'abandonne. Plus grave, si, on va dire, un cadre commercial ne fait pas assez de chiffres, eh bien, on le licencie. Si une usine ne génère pas assez de profits, on met les ouvriers au chômage. Ça, c'est vraiment actuel, Vous voyez à quoi je fais allusion à tout ce qu'on a entendu cette dernière semaine. Notre système économique nous a habitués à vivre sous la pression de cette idée de la recherche d'une rentabilité toujours plus forte. Et finalement, quand je regarde la parabole, je pourrais dire qu'il y a deux des trois serviteurs qui ont satisfait aux critères actuels de la rentabilité, parce que leur travail a rapporté. Leur travail a rapporté, c'est écrit. Et c'est là qu'il faut faire attention. Le maître, lorsqu'il revient, il félicite les deux premiers serviteurs. C'est vrai. Mais pourquoi les félicite-t-il? C'est ça qui est important. Pourquoi les félicite-t-il? Il les félicite, non pas pour leur rendement, il n'en parle pas, mais il met en avant deux choses. Il les félicite pour le fait qu'ils se sont montrés dignes de confiance et fidèles. Dignes de confiance et fidèles. D'ailleurs, j'ai relu l'histoire plusieurs fois. Je n'ai pas trouvé d'indice dans le texte qui laisserait penser que le maître avait fixé comme objectif, avant son départ, de doubler la mise avant son retour. C'est pas du tout écrit. Et c'est une bonne nouvelle pour nous que le Seigneur n'évalue pas ses serviteurs comme les patrons actuels évaluent leurs ouvriers. Soyons-en reconnaissants. Soyons-en reconnaissants. Son premier souci n'est pas cette histoire de rentabilité. Notre communion avec lui et son amour pour nous ne sont pas indexés sur ce que nous pouvons faire, sur la valeur de ce que nous rapportons. Le Seigneur voit les choses autrement. C'est pas une histoire de rendement. Il y a un texte dans Acte 17, alors certains ont certainement entendu déjà prêcher sur Acte 17, mais j'aimerais citer les versets 24 et 25, où Paul dit, dans ce discours de Paul à Athènes, Paul dit, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires fabriqués par des mains humaines. » Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Alors, je vous ai cité tout à l'heure la parole de Paul aux Romains, « Servez le Seigneur ». Il n'est pas en train de dire aux Athéniens, vous ne pouvez pas servir le Seigneur. Hein, il ne se contredit pas. Mais Paul affirme à Athènes, mais c'est aussi pour nous, que ce n'est pas parce qu'il lui manque quelque chose que le Seigneur accepte un service de notre part. Ce n'est pas parce qu'il lui manque quelque chose. Et c'est une grande vérité biblique que de comprendre que nous ne pouvons pas enrichir le Seigneur. Nous ne pouvons pas enrichir le Seigneur. Il a déjà tout. Et cela veut dire que l'amour du Seigneur pour nous n'est pas un amour intéressé. Quand le Seigneur pardonne à un pécheur, ce n'est jamais en se demandant « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en tirer en retour ?» Ce n'est pas un amour intéressé. Alors il faut servir le Seigneur, mais il ne faut pas le servir pour de mauvaises raisons. Et il est toujours possible de se démener pour Dieu. Et comme vous, comme on tombe, je tombe aussi parfois dans ces travers. On peut se démener pour Dieu, alors que ce soit dans l'évangélisation, dans le service dans l'Église, dans un tas de domaines, mais se démener parce qu'on a quelque part l'espoir qu'il nous aimera plus, il nous aimera plus à cause de ce qu'on fait. Un de mes interprètes préférés résume bien dans une de ses chansons les choses quand il dit « Il ne peut pas nous aimer plus ». Il ne peut pas nous aimer plus. Il a donné son Fils. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il ne peut pas nous aimer plus et il ne veut pas nous aimer moins. Ça, c'est quelque chose qui devrait nous faire du bien dans nos cœurs. Il ne peut pas nous aimer plus et il ne veut pas nous aimer moins. Notre relation avec le Seigneur est fondée sur la grâce. Son amour, donc, comme je l'ai dit, n'est pas indexé sur notre utilité, sur nos performances. Son amour est gratuit. Et notre Dieu se plaît à aimer des femmes et des hommes non rentables, qui ne lui rapportent rien. Juste pour enfoncer le clou, ce que Jésus dit dans Luc 17, 10, a aussi un rapport avec cela. C'est la confirmation quand il dit encore à ses disciples, « Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. » Et le mot traduit par « inutile » veut dire « non indispensable ». Nous sommes des serviteurs non indispensables, non rentables. Donc, servez le Seigneur. Mais d'abord, comprenez que le Seigneur attend de nous autre chose qu'une rentabilité comptable. Alors vous êtes en train de vous dire pourtant le travail des bons serviteurs dans la parabole à rapporter. Et c'est vrai. Et le but de l'histoire n'est certainement pas de nous décourager dans notre service, de nous inciter à rien faire. Hein. C'est clair que le Seigneur veut au contraire nous appeler au service. Mais voici comment on peut comprendre les choses. Et vous réfléchirez pour vous-même, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais voici comment je résous l'énigme pour moi-même. Si notre service, si notre action pour le Seigneur, nos dons mis à son service, si nos offrandes, si nos actes de compassion, notre témoignage, parlé, vécu, si tout cela doit être rentable, c'est plutôt pour les autres. Et je crois pour nous-mêmes. Ah, oui, je crois que notre service doit être rentable, même pour nous-mêmes. Car c'est dans le service que Dieu nous accorde que nous nous réalisons. Ça fait partie du chantier qui est en cours. Et Dieu agit à travers le service qu'il nous a confié pour nous faire grandir, pour nous faire avancer avec lui. C'est par la bonne utilisation des capacités que le Seigneur nous a données que nous enrichissons nos frères et sœurs dans l'Église, aussi plus généralement, j'espère que nous enrichissons la vie de tous ceux que nous côtoyons d'une façon ou d'une autre. Et je ferai un lien avec ce que Paul dit au sujet justement des dons dans 1 Corinthiens 12. En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Une autre traduction dit « pour le bien de tous ». L'Esprit se manifeste d'une façon particulière en chacun en vue du bien de tous. Chacun est équipé par Dieu pour servir. Chacun a reçu ses lingots. Chacun est responsable de ce qu'il a reçu. Pour le mettre au service de tous. Responsable veut dire appelé à répondre, à rendre compte. Et la parabole nous rappelle que le maître revient. Le maître revient. Ne l'oublions pas. Nous trouvera-t-il digne de confiance et fidèle dans ce qu'il nous a demandé de faire pour lui, dans l'utilisation des possibilités qu'il nous a données. Les possibilités, il faut les mettre en action. Notre service chrétien n'est pas finalement quelque chose que nous faisons pour Dieu comme s'il en avait besoin, mais quelque chose que Dieu veut faire en nous. Et à travers nous, et dont nous avons besoin. Autrement dit, si nous sommes adeptes du profil bas et du service minimum, nous n'appauvrissons pas le Seigneur. Mais nous privons les autres, et nous nous appauvrissons nous-mêmes. Alors, si je ne peux pas enrichir le Seigneur, quelle motivation pour servir? Je pense que c'est une bonne question, et la parabole a quelque chose aussi à dire là-dessus. Qu'est-ce qui motive les serviteurs dans la parabole? Alors, pour ce qui concerne les bons serviteurs, parce qu'en fait, on a deux sortes de serviteurs, hein, tout le monde a compris, il y a les deux qui sont félicité, et puis un autre bon, dont on parlera dans un instant. Mais prenons les bons serviteurs. Il y a un mot dans leur discours qui revient et qui devrait nous frapper. C'est ce petit mot « confier ».« Tu m'avais confié 5 talents. »« Tu m'avais confié 2 talents. » Ça veut dire, Seigneur, tu m'as fait confiance. Tu m'as fait confiance. Ils ont considéré cette confiance du maître comme une grâce. Et cette grâce a suscité dans leur cœur une gratitude, une reconnaissance agissante. Voilà ce qui motive leur fidélité. Seigneur, tu m'as fait confiance à moi, tel que je suis. J'en suis tellement reconnaissant que je veux faire tout ce que je peux pour t'être agréable. Montre-moi ce que je peux faire. Il y a aussi un mauvais serviteur dans l'histoire. Hein, et lui, il a une toute autre vision des choses. Il parle comme si le talent qu'il a reçu lui a été imposé. Seigneur, je t'ai rien demandé. Et pour lui, on comprend qu'il regarde ce qu'il a reçu comme un cadeau empoisonné. Il dit, je ne savais pas quoi en faire. Pour lui, ce n'était pas une grâce. C'était quelque part un fardeau. Cette responsabilité, ça l'ennuie, ça le dérange. Alors il dit, ben oui, j'ai été motivé par la peur. J'ai eu peur. Et au lieu de considérer ce qu'il avait reçu comme un potentiel à faire fructifier, il l'a traité comme un déchet ou comme une chose morte. Il l'a enterré. Hein? Il l'a enterré. Alors pour se dédouaner, parce que bon, il ne va pas se laisser faire quand le maître revient et n'est pas content de lui. Pour se dédouaner, il esquisse un portrait, on va dire, peu flatteur hein, de son maître, hein, pour tenter de nier sa responsabilité. Non, ben, je n'ai rien demandé, alors voilà. J'en ai rien fait et je te rends ce que j'ai reçu. Mais j'ai envie de dire qu'il ne fait qu'aggraver son cas. Le maître n'a pas de mal à mettre le doigt sur l'incohérence de ses explications. Entre parenthèses, il me semble qu'on n'est pas obligé de penser que le maître se reconnaît pleinement dans ce portrait que le mauvais serviteur trace de lui, mais la réponse du maître veut dire « Mais si tu me croyais vraiment tel que tu me décris, ben, tu aurais dû au moins placer mon argent à la banque. Tu aurais dû agir en conséquence. » Parce que tu dis que tu as peur, mais on ne voit même pas de crainte. On ne voit pas que tu aies agi, même sous la crainte. Il y a de la mauvaise foi chez cet homme-là. Je pense qu'il ne faut pas conclure de cette histoire que le Seigneur veut qu'on soit motivé par la peur. Ce n'est pas la bonne direction. Un chrétien qui sert Dieu par crainte de la punition ne sert pas le Dieu de toute grâce, ne sert pas le Père de Jésus-Christ, mais une espèce de père fouettard, issu peut-être de son imagination ou encore de son éducation. Parce que c'est une réalité, quelquefois, notre vision de Dieu est déformée par ce que nous avons connu dans la vie, mais que Dieu nous aide à le voir tel qu'il est, et non pas à travers ces images déformées. Le mauvais serviteur parle de peur, mais ne manifeste aucune crainte. Il n'a pas cette crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse, en tout cas. J'aurais envie de dire que cet homme n'avait ni reconnaissance, ni respect pour son maître. Il se révèle finalement faux serviteur. Sur l'échelle de la motivation, peut-être que la crainte vaut mieux que l'indifférence, mais elle n'est pas vraiment ce qui plaît au Seigneur. C'est peut-être le premier échelon, mais le Seigneur nous renvoie à sa grâce. Il nous renvoie toujours, toujours à sa grâce, pour que nous soyons motivés par la reconnaissance. Et quand nous perdons la vision de ce que Dieu nous a donné par grâce, eh bien nous perdons aussi la reconnaissance. Donc il faut constamment renouveler notre compréhension de la grâce en revenant à la parole. Il nous fait confiance. Il te fait confiance. Et s'il nous fait confiance, il nous demande en même temps de nous montrer dignes en le servant dans la durée, dans la fidélité. Alors, à quoi peut ressembler le service selon Dieu? Il consiste, nous l'avons vu, à faire fructifier ce qu'on a reçu dans un esprit de fidélité. Le texte de la parabole dit, je cite de nouveau, que celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, travailla avec eux et en gagna 5 autres. S'en alla, travailla avec eux et en gagna 5 autres. Et j'aimerais souligner le fait qu'il a travaillé avec ce qu'on lui a donné. Le maître n'a pas demandé à celui qui n'a reçu que 2 lingots pourquoi il n'en avait pas fait fructifier 5. C'est important. Il faut travailler avec ce qu'on a reçu, pas avec ce qu'on aurait aimé que le Seigneur nous donne. Quelquefois, on est, ben, Seigneur, le don que tu m'as donné, c'est pas celui que j'aurais choisi. Mais le Seigneur sait ce qu'il nous a donné. C'est ça qui est important. Le Seigneur sait ce qu'il m'a donné, ce qu'il t'a donné. Il sait de quoi nous sommes capables. Il sait pour quel service il nous a équipés. Et il s'attend à ce que nous tentions de le découvrir. Alors là, c'est un vaste sujet, comment découvrir ces dons, qu'on n'abordera pas longuement ce matin. Mais j'ai envie de dire aussi que parfois, il faut tâtonner un peu pour trouver. J'espère que ça ne choque personne, il faut essayer pour voir. Il y a des dons qu'on ne découvre que dans l'action, en essayant. Il faut permettre aux dons de se montrer, peut-être en s'essayant à différentes choses dans la vie et dans l'Église. Mais toujours, évidemment, avec l'humilité de demander aux autres d'évaluer. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment ça que le Seigneur m'a donné? Et puis tout en étant prêt aussi à dire, ben non, c'est pas ça. Donc je continue à chercher. Mais le Seigneur m'a donné quelque chose qui me permettra d'enrichir les autres. Et puis j'aimerais aussi dire qu'il y a des services plus ou moins visibles dans la maison de Dieu. Ça c'est parfois aussi une difficulté. Il y a des services plus ou moins visibles et bon, on est attiré par les services visibles. C'est humain. Mais c'est pas ce que le Seigneur regarde. Parce que lui, il voit tout. Le Seigneur, lui, il voit tout. Il n'y a pas de bon serviteur qui ne fait rien, mais il y a des serviteurs qui travaillent dans l'ombre. Et les autres ne s'en rendent pas forcément compte. L'important, c'est pas ce que les autres voient, c'est ce que le Seigneur voit. Par exemple, si tu te donnes à l'intercession, le Seigneur le voit, les autres moins. Si tu exerces l'hospitalité, le Seigneur le sait. Si tu développes un ministère d'encouragement, le Seigneur est au courant. Si tu laves les verres qu'on a utilisé pour la scène, ben le Seigneur ne l'ignore pas. Si tu t'occupes de la technique ou du ménage après les travaux ou du journal de l'Église, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des tas de choses que le Seigneur peut donner aux uns et aux autres, mais lui, il s'en aperçoit. Parfois, les autres, ben, ils se rendent compte de rien, mais c'est pas grave. Si tu accueilles les nouveaux venus, le Seigneur est content. si tu visites les malades et les personnes âgées, lui, il apprécie. Si tu entoures les plus faibles, si tu gardes les enfants, si tu les enseignes, on pourrait continuer longtemps, rien n'échappe au Seigneur. Rien de ce qu'on peut faire pour lui n'échappe au Seigneur. Et c'est ça qui est important. Le maître dans la parabole a félicité ses bons serviteurs pour leur fidélité. Parce que le service que Dieu nous demande, c'est pas juste de temps en temps quelque chose qui frappe les yeux, c'est quelque chose dans la durée. C'est un engagement. Et cette fidélité, je dirais aussi, on pourrait la traduire par « soyons fidèles à ce que nous sommes » dans le sens où c'est Dieu qui nous a fait tels que nous sommes. Alors soyons fidèles à ce que nous sommes parce que c'est le Seigneur qui nous a fait. Soyons fidèles à celui qui nous a appelés. Il y a un autre aspect de cette parabole dont je ne peux pas parler ce matin, mais je mentionne juste en passant parce que je pense que ça complète tout ce que nous pouvons faire ici-bas. N'est qu'une formation pour de plus grandes responsabilités dans le monde à venir. C'est écrit là, ça aussi dans la parabole. Hein? Mais voilà, le maître revient. Il y a autre chose qui se prépare. Et là, ben, il faut que le chantier en cours avance en attendant son retour. Par amour, mettons-nous au service du Dieu de toute grâce. Il nous montrera ce qu'il attend de nous, si nous voulons vraiment savoir. Ce qu'il attend de nous, mais pour le bien de tous. N'oublions pas que notre service n'est pas quelque chose que nous faisons pour Dieu comme s'il en avait besoin, mais quelque chose que Dieu veut produire en nous. C'est son œuvre. C'est quelque chose que Dieu veut produire en nous par son esprit. Et dont l'Église a besoin, et dont le monde a besoin, et dont nous avons besoin pour vivre pleinement avec cette grâce qui n'a pas fini de nous étonner. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez bouillants par l'Esprit. Servez le Seigneur. Nous puissions laisser l'Esprit nous enrichir pour enrichir les autres. Prions. Seigneur, tu nous as cherchés, tu nous as trouvés, tu nous as sauvés, et puis tu nous as fait confiance pour te servir dans la fidélité. Et nous voulons te demander, Seigneur, de nous aider à prendre la mesure de ce que cela veut dire, que le Dieu de l'univers m'a fait confiance, qui me confie quelque chose qui me permettra d'être en bénédiction à son peuple et à un monde qui se perd. Seigneur, merci. Que leur reconnaissance grandisse dans nos cœurs et déborde dans nos actions, dans notre service. Seigneur, tu es bon. Seigneur, ton amour dépasse toute description. Seigneur, nous ne savons pas comment dire la hauteur, la largeur, la longueur, la profondeur de cet amour que tu nous as montré en Jésus-Christ. Merci. Et que nous puissions apprendre à vraiment te laisser agir dans nos vies pour que notre service soit le produit de ton œuvre en nous. Non pas simplement le produit de notre énergie humaine, mais vraiment quelque chose que toi tu produis par grâce dans nos cœurs. Nous te louons, Père, pour Jésus-Christ, qui est l'amour incarné. Merci, parce que ce Maître, qui nous a fait confiance, qui nous a confié des responsabilités, merci parce que ce Maître revient. Nous attendons dans la joie ce jour où nous le verrons face à face. Et nous voulons, Seigneur, entendre ces paroles que nous avons lues dans la parabole. Bien, bon et fidèle serviteur. Seigneur, par ta grâce, aide-nous à progresser dans cette direction. Nous te remercions encore pour tout ce que tu as déjà fait, pour le chantier en cours et pour tout ce que tu feras demain et jusqu'à ce jour où nous te verrons. Merci, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.